Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Hormé-Juste. Et cette semaine au podcast, eh bien, je vais avoir comme invité Benjamin Saint-Just, qui est demi de coin pour les Gophers de l'Université du Minnesota. Les Gophers qui sont invaincus, une fiche de 6 victoires et aucun revers. D'ailleurs, ils sont classés dans le top 25 en 20e position du football universitaire américain. Et également, bien sûr, on va parler de la NFL et également des Alouettes. Mais de la façon qu'on va le faire, eh bien, je vais répondre à vos questions. Je vous avais demandé via Twitter, Instagram et Facebook de m'envoyer vos questions concernant les Alouettes et la NFL. Vous avez répondu. Alors, je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Alors, cette édition du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Joindre à nous au podcast. Tu es dans ton dortoir. Alors, une excellente début de saison pour vous, les Gophers. Vous êtes parfait là, à la mi-saison, 6 victoires, aucune défaite.
Très, très bonne saison, surtout que c'est pas quelque chose qui est très habituel avec le programme. C'est vraiment un revirement. C'est la troisième saison de coach PJ Flex ici. Puis c'est quelque chose qui a mis beaucoup d'emphase cette saison, comme quoi on n'a pas besoin de rabaisser la barre et puis justement aller pour un peu plus que le average qui était toujours comment on peut dire ça, la base pour les Minnesota Gophers. Donc 6-0, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant pour ce programme là cette année.
Ouais, est-ce que tu sais c'était quand la dernière fois que l'Université du Minnesota était classée dans le top 25?
Je pense qu'est-ce que j'avais vu sur Twitter, c'est la première fois 6-0 pour la première fois en depuis 2003. Et puis là, on est à 8 victoires de suite depuis nos 2 victoires l'année passée dans le contre Wisconsin et puis le bowl game depuis 1963, je pense.
Ah oui, donc là, le programme qui connaît ses meilleurs moments, là, finalement, là, de l'histoire du programme des Gophers. Ah ouais. Ben ça, c'est vraiment excellent. Mais écoute, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était durant l'été, le camp d'entraînement allait commencer. Tu venais justement de changer des Wolverines de l'Université de Michigan à l'Université du Minnesota. Alors dis-moi, comment cette transition s'est passée pour toi? Puis tu es d'ailleurs maintenant un demi-coin partant là, au niveau de la défense.
Ça a été vraiment amusant. J'ai vraiment retrouvé l'amour du sport, du football, et puis l'amour d'être dans une équipe de football, parce que c'est vraiment quelque chose qui passe super vite, college football, football universitaire. Puis donc tu dois apprendre tous ces moments-là vraiment, comment on dit ça en anglais, cherish all these moments. Donc j'avais perdu un peu ça dans le temps. L'année passée, comme on dit, mais avec la transition que j'ai eue ici, et puis l'aide que j'ai eue des entraîneurs, de tous mes coéquipiers et tout, et puis rejouer au football encore et rester en santé, ça m'a redonné toute cette envie de jouer à ce sport-là que j'aime vraiment beaucoup. Et puis avec comme tu disais, avec la bonne lancée qu'on est en ce moment, avec 6 victoires, 0 défaites, donc ça rajoute encore quelque chose à cette expérience-là que j'ai ici. Hein.
Mais comment justement ça s'est fait pour toi là de changer d'université, nouveau coéquipier, un nouveau campus, donc là de faire tous ces changements-là là durant ta carrière, comment cette transition-là elle s'est passée? Parce que ça a été une décision quand même difficile là de ta part de changer d'université. En tant qu'athlète étudiant, comment ça se passe pour toi?
Ben, j'ai été surpris que c'est quand même assez une bonne transition. J'ai pas eu beaucoup de problèmes vu que surtout, disons, je parle du côté académique. Mon horaire est bien construite avec les counselors ici. Donc, je suis pas vraiment stressé du côté académique. Côté football, comme je te disais, les entraîneurs m'ont vraiment aidé. Les coéquipiers m'ont vraiment aidé, que ce soit apprendre le cahier de jeu ou être confortable avec l'équipe et tout ça. Donc, la seule affaire qui me restait vraiment à faire, c'est de venir et puis d'opérer. Puis de montrer comment mes performances et puis comment je joue. Et puis ça s'est bien passé, donc je suis content de ce côté-là.
Ouais, pour les gens qui nous écoutent, bon, tu as gradué de l'Université de Michigan printemps dernier. Alors, mais maintenant, là, au niveau de tes études, là, qu'est-ce que tu fais présentement là, à l'Université du Minnesota?
Donc, je suis rentré, j'ai commencé avec mes premiers cours en été. Je suis dans le programme sports management en kinésiologie. Donc, c'est un programme qui est relié beaucoup plus au business, au côté business du sport. Donc, que ce soit pour d'être un agent sportif ou de travailler pour une équipe sportive dans la NFL ou la CFL ou d'avoir ta propre compagnie de sport ou d'entraînement, n'importe quoi, c'est un diplôme qui peut t'ouvrir les portes dans tous ces domaines-là.
Ouais, puis t'as-tu un conseil à donner aux jeunes là, qui écoutent le podcast ou qui nous regardent? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas été une décision facile que tu as prise de changer d'école, mais clairement, là, tu croyais en toi, tu croyais en tes moyens lorsque tu as décidé de prendre cette décision.
Oui, comme je te dis, c'est pas été mon premier choix. Ça n'a jamais été mon premier choix de changer, mais vu que j'ai été poussé à faire ce choix-là à cause d'une blessure, ben je me suis dit si je dois faire ce choix-là, je vais mettre toutes les comme on dit toutes les cartes de mon côté, toutes la bonne décision. Donc j'ai décidé de rester un peu plus longtemps à Michigan, un semestre de plus pour avoir mon diplôme au moins. Comme ça, je suis pas allé justement à Michigan, une des meilleures. La meilleure école publique aux États-Unis pour rien. Au moins, je suis sorti avec un diplôme. Je suis sorti avec un diplôme qui m'a aussi aidé à pas être pas éligible cette année. Donc, si tu gradues pas, si tu transfères et tu gradues pas, normalement, tu es supposé de sit out une année, de pas jouer. Donc, le fait que j'ai réussi à graduer, ça m'a donné mon diplôme et l'éligibilité immédiate aux Gophers. Donc, ouais, j'ai décidé de mettre l'école en premier, qui m'a aidé aussi du côté football quand je suis venu ici.
Ouais, les gens, bon, qui ont jamais été athlètes étudiants, des fois, ils croient que c'est facile lorsqu'on est athlète étudiant aux États-Unis, qu'on n'a pas besoin d'aller à nos cours, mais tu as des horaires chargés. Si tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une journée quotidienne, une journée typique là en saison pour toi?
OK. C'est un peu plus relax vu que là j'ai déjà gradué, mais c'est quand même assez chargé en ce moment. En saison, je me lève à 5h45 du matin, je vais au facility pour faire du traitement et de la réhabilitation, parce que je prends toujours soin de mon corps. C'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux. Donc, je fais de la réhabilitation pendant une heure, donc de 6h15 à 7h15. À 7h15, je descends à la salle de musculation pour prendre mon poids et prendre mon déjeuner. Je prends mon déjeuner, je monte en haut pour aller au team meeting. On a un team meeting pendant 30 minutes à 7h30. Après 7h30, de 7h30 à 9h, on est en meeting de position, donc défense et puis après demi-défensif. Après, je retourne dans la salle d'entraînement, me réchauffer, me préparer pour la pratique. La pratique est à 9h30. De 9h30 à 11h, on pratique.
Ah, c'est quand même tôt. Moi, à l'époque, lorsque j'étais à l'Université de Toledo, c'était en après-midi, les entraînements sur le terrain.
Ouais, à Michigan, c'était en après-midi, je me rappelle bien, 2h30 à 3h. Mais là, je préfère un peu plus cet horaire-là, comme tous les trucs sont finis, disons, le matin. Donc, ça, c'est fini.
Ouais, c'est plus
fini,
pratique, oui.
Ouais, ça finit à 11h. Ouais, fini à 11h. Donc là, après, on est dans le bain de glace et tout. On va manger. Moi, vu que je suis graduate school, mais la plupart de mes cours sont durant le soir. Donc, je retourne toujours à mon domicile, mon appartement, prendre une sieste, me préparer, manger. Puis après, mon cours, sûrement à 4, 5, 6 heures. Puis après, quand j'ai fini ce cours-là, je retourne au facility faire du film, regarder l'équipe qu'on va jouer contre pour me préparer. Puis après, c'est la journée finie.
Ouais. Puis est-ce que tu es en train de devenir un partisan des Vikings? J'ai vu sur ton compte Instagram il y a quelques semaines, tu étais allé voir un match des Vikings. Alors dis-moi comment ça s'est passé puis comment tu as aimé ton expérience.
C'était vraiment le fun. Qu'est-ce que j'aime ici, c'est que toutes les équipes professionnelles, surtout avec les Gophers, sont vraiment proches. Il y a beaucoup de support, que ça soit les United Soccer Team de Minnesota, United FC, Minnesota Vikings, Minnesota Timberwolves. Tout le monde vient. Ils sont tous venus à nos pratiques, nous voir, nous parler. Et tout ça, donc Coach Fleck a réussi à nous avoir des billets pour toute l'équipe. On est allé voir la partie. C'était vraiment une super ambiance, un super beau stadium.
C'était contre qui? Contre qui ils jouaient?
C'était les Raiders. Ils jouaient contre les Oakland Raiders. Et puis, c'était vraiment cool. Belle expérience, beau stadium. Les partisans, c'est des diehard fans. Le stadium est toujours rempli. Puis, ouais, c'était cool.
Est-ce que tu avais une équipe favorite de la NFL avant de déménager au Minnesota?
Non, j'ai toujours été vraiment un college, toujours quitté le football universitaire, college. J'avais pas. Peut-être quand j'étais jeune, mon équipe, j'aimais vraiment les Ravens à cause de leur défense avec Ed Reed et Ray Lewis, tout ça. Mais non, j'ai jamais vraiment eu une équipe favorite dans la NFL.
Bon, ben c'est parfait ça. Bon, maintenant, comme on disait tout à l'heure, vous êtes maintenant classé, pas juste dans le top 25, mais dans le top 20. Vous êtes classé 20e. Mais là, depuis le début de la saison, bon, le calendrier a été relativement facile de votre côté. Mais là, pour la deuxième moitié de la saison, comment tu entrevois ça? Parce que présentement, bon, vous êtes égalité au premier rang de la section ouest du Big Ten. Mais là, le calendrier va se corser. Là. Vous allez affronter des équipes qui sont classées. Notamment, vous allez affronter, vous jouez contre Rutgers cette semaine. Mais après ça, dans quelques semaines, vous allez affronter Penn State, Iowa. Penn State qui est classé 7e, Iowa classé 23e. Et vous terminez la saison contre Wisconsin qui est classé 6e. Donc, comment tu entrevois la deuxième moitié de votre saison?
Donc, on essaie de prendre ça toujours une game à la fois. Donc, tout le monde le sait que le mois de novembre va être corsé, comme tu dis. Donc, on essaie de se préparer mentalement, physiquement, game par game, que ça soit Rutgers, Maryland. Et puis, on a un bye week aussi avant ce gros mois de novembre-là. Donc, on va encore avoir beaucoup plus de préparation. Mais on connaît le processus, on connaît la recette pour gagner. Je dirais qu'au début de la saison, on cherchait encore notre identité, on cherchait encore à savoir si on était vraiment au calibre, si on était capable de compétitionner contre toutes ces autres équipes-là. Mais maintenant qu'on sait qu'on a les joueurs puis qu'on a le game plan et tout pour gagner, c'est une question seulement d'exécuter. Puis de garder cette confiance-là pour qu'on aille chercher ces grosses victoires-là au mois de novembre.
Ouais, pour les gens là, qui ne sont pas familiers avec les Gophers, comment tu décrirais justement là, votre style en commençant du côté de la défense puis après ça en attaque?
Côté de défense, je te dirais, notre DC va out-scheme, comme je ne sais pas comment trouver le terme en français, mais out-scheme. Il va out-scheme l'autre équipe. L'autre équipe va arriver avec un plan de jeu. Plan de match. L'autre équipe va arriver avec un plan de match. Et le plan de match original de l'autre équipe va pas fonctionner. Là, ça va être encore plus difficile pour eux de changer parce qu'on est un pas à l'avant d'eux. On sait déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. On a déjà un plan pour s'ils décident de changer ce type de jeu ou ils décident de faire courir le corps arrière ou le lancer un peu plus de nos côtés. On sait déjà comment s'adapter. Donc, on s'adapte super bien vite. On s'attaque très vite. On a des athlètes un peu partout, donc ça nous aide beaucoup.
Ouais, c'est quoi le nom de votre coordinateur en défense?
Joe Rossi.
OK, Joe Rossi.
Joe Rossi a vraiment fait une super belle job depuis qu'il est arrivé ici. Moi, j'étais pas encore là l'année passée, mais l'année passée, c'était un coordinateur défensif différent. Ils ont perdu beaucoup de matchs par 50-40 points. Et puis quand Joe Rossi est arrivé, c'était vraiment un changement. Ils ont gagné toutes leurs games. Ils ont accordé, je pense, seulement 14 points ou 10 points maximum par game, mais ils ont tous gagné leurs autres games. Donc, je pense qu'il a vraiment fait une très bonne job quand il est arrivé.
Ouais, donc jusqu'à présent, vous représentez la surprise du Big Ten. On espère que ça va continuer de votre côté. Puis j'espère que tu vas continuer justement là, à offrir de bonnes performances en tant que demi-coin partant. Alors écoute, Ben, je te remercie. Je sais que tu es occupé. Je te remercie d'avoir pris de ton temps afin de participer au podcast. Puis on va se reparler en espérant que la prochaine fois qu'on se reparle, ben, vous allez être maintenant classé dans le top 10.
Ouais, parfait.
Bonsoir à toi. Bonne fin de journée. Alors, comme je vous le disais, bon, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions concernant les Alouettes, concernant la NFL. C'est très occupé. Alors, on va faire ça différemment là aujourd'hui, le podcast, étant donné qu'on enregistre le podcast et qu'on est rendu mercredi. Alors, de faire un retour là sur les matchs du week-end, bon, ça commence à être loin tout ça, d'autant plus que maintenant, bon, demain, ce sera la septième semaine d'activité de la NFL qui va se mettre en branle avec le duel entre les Chiefs et les Broncos de Denver. Alors, on va y aller, on va répondre à vous, je vais répondre, oui, aux questions que vous m'avez envoyées. Je vais commencer par celles que vous m'avez envoyées sur Instagram. On va y aller avec ça. Alors, donnez-moi quelques instants. Alors, il y a Sarraz 28, donc Maxime Sarrazin, oui, qui me demande si je crois que les Alouettes peuvent rivaliser avec les Tiger Cats de Hamilton. Mais faut pas oublier, bon, premièrement, les Tiger Cats sont assurés de terminer au premier rang de la section Est. Alors, si les Alouettes accèdent à la finale de l'Est, eh bien, ils vont affronter les Tiger Cats à Hamilton. Mais au début de la saison, les Alouettes avaient défait les Tiger Cats. Les deux équipes se sont affrontées deux fois. Les Alouettes avaient perdu le premier match. Ça avait lieu à Hamilton. Et la semaine suivante, ben, les Alouettes avaient enregistré leur première victoire de la saison face aux Tiger Cats au Sappers Home Wilson. Toutefois, à l'époque, la carrière partant des Tiger Cats, c'était Jeremiah Mazzoli. Il ne s'était pas encore blessé un genou depuis. Il a été remplacé par Dane Evans à la suite de sa blessure. Et présentement, Hamilton, selon moi, est la meilleure équipe de la Ligue canadienne. Les Tiger Cats sont une équipe complète, que ce soit en attaque, au niveau des unités spéciales, avec leur défense qui crée des revirements également. Donc, on a vraiment une bonne machine de football à Hamilton. Mais les Alouettes nous ont prouvé une chose depuis le début de la saison, c'est qu'ils sont capables de rivaliser et de battre toutes les équipes de la Ligue canadienne. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Mais une chose qu'on va devoir surveiller du côté des Alouettes, c'est l'état de santé de la formation. Parce que là, les blessés commencent à s'accumuler. Tony Washington est perdu pour la saison, le bloqueur à gauche. Puis là, il y a d'autres blessés au niveau de la ligne d'attaque. Sean Jameson ne s'est pas entraîné cette semaine. Donc, le côté droit en particulier de la ligne à l'attaque représente un point d'interrogation. Là, pour le moment, Chris Schlager joue maintenant la position de bloqueur à gauche en remplacement de Washington. Alors, les Alouettes nous ont prouvé qu'ils peuvent rivaliser et battre n'importe quelle équipe de la Ligue canadienne. Mais il va falloir que les blessés arrêtent. On va falloir qu'on arrête d'accumuler les blessures du côté des Alouettes. Si justement on va être en mesure, premièrement, de gagner la demi-finale de l'Est et ensuite de ça, d'aller à Hamilton et de causer une surprise. Mais oui, les Alouettes en santé, pour répondre finalement à la question, oui, je crois qu'ils peuvent battre les Tiger Cats de Hamilton, mais l'équipe se doit d'être en santé dans la mesure du possible. On s'entend sans de l'année. Il n'y a aucune équipe qui est en santé. Mais donc, si les Alouettes peuvent arrêter d'avoir des blessés, oui, ils peuvent rivaliser avec les Tiger Cats de Hamilton. Maintenant, il y a Philippe Calvillo. Je me demande, est-ce que c'est ton vrai nom de famille, Calvillo? Philippe, ou si tu étais simplement un grand amateur d'Anthony Calvillo. Est-ce que Trevor Harris va être de retour pour les éliminatoires, donc possiblement contre les Alouettes? Donc, en vertu du règlement du croisement, tout porte à croire que ce sont les Eskimos d'Edmonton qui vont s'amener dans l'Est afin d'affronter les Alouettes lors de la demi-finale de l'Est. Bon, il y a encore un scénario au cours duquel ça pourrait être les Blue Bombers de Winnipeg, mais il faudrait que les Bombers perdent leurs trois derniers matchs de la saison et que les Eskimos gagnent leurs deux dernières rencontres. Je crois pas que ce scénario-là va se produire. Alors, il semble, comme je le disais, que ce sera bel et bien les Eskimos qui vont affronter les Alouettes. Pour ce qui est de l'état de santé de Trevor Harris, c'est vraiment mystérieux parce qu'on n'a jamais eu de mise à jour concernant son état de santé. Oui, on l'a placé sur la liste des blessés, mais tout ce qu'on a dit du côté des Eskimos, c'est qu'il était blessé au bras droit et qu'il allait être absent pour une période indéfinie. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines de ça et on n'a pas eu de mise à jour sur son état de santé. Alors ça augure mal, selon moi, du côté des Eskimos d'Edmonton. C'est toujours Logan Kilgore qui est le carrière partant et il ne reste plus beaucoup de matchs à la saison régulière. Il ne reste plus que 3 semaines. Alors, si Harris ne revient pas au jeu, s'il revient au jeu pour la demi-finale de l'Est, ben ça va faire un bon bout de temps depuis son dernier départ. Alors, ce qui va être rouillé, et même s'il n'est pas rouillé, les Alouettes ont défait à Montréal plus tôt cette saison les Eskimos avec Trevor Harris aux commandes de l'attaque d'Edmonton. Alors, encore une fois, les Alouettes ont prouvé qu'ils peuvent battre n'importe qui. Mais ça sera intéressant de voir si Harris sera à son poste parce que, naturellement, les Eskimos sont beaucoup plus dangereux plutôt avec leur carrière étoile au poste de quart qu'ils ne le sont avec Logan Kilgore. Oui. Alors, je vais me transporter maintenant du côté de Twitter, où est-ce qu'il y a ZavJack1139, alors qui me demande qu'est-ce que je pense du départ des 49ers. Ben écoutez, les Niners, qui sont la meilleure équipe du côté de l'Association nationale, les Niners et les Patriots sont les deux seules équipes qui sont toujours invaincues du côté de la NFL. les 49ers, mais premièrement, tout commence avec leur jeu au sol du côté de l'attaque. On a une attaque au sol qui est très diversifiée et malgré le fait qu'on est privé de nos deux bloqueurs partants, ben, on continue de courir avec succès avec le ballon. Il faut donner crédit au coordinateur, ben, au coordinateur, à l'entraîneur-chef, Kyle Shanahan. Et Jimmy Garoppolo ne connaît pas une grande saison, mais jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu besoin de bonnes prestations de sa part, étant donné que le jeu au sol fonctionne tellement. Et tout ça, ben, c'est complémentaire. Ça permet à la défense de passer du temps sur les lignes de côté. Et la défense des 49ers qui joue de l'excellent football. On a quoi? On a 4 anciens choix de première ronde au niveau de la ligne défensive seulement, si je me trompe pas. Nick Bosa a vraiment été impressionnant lors du match du lundi soir face aux Browns de Cleveland. Alors oui, moi je crois vraiment que les Niners, il y a de fortes chances qu'ils terminent au premier rang de la section ouest du côté de la Nationale. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec les Seahawks de Seattle, mais c'est vraiment un début de saison très impressionnant du côté de San Francisco. Alors, Christophe Leblanc sur Twitter me demande, est-ce que les Alouettes peuvent réellement gagner la Coupe Grey selon moi? Oui, je crois que oui, parce que je ne crois pas qu'il y ait une équipe qui est dominante au sein de la Ligue canadienne de football. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que les Tiger Cats de Hamilton sont la meilleure équipe de la Ligue canadienne. Mais il n'y a pas une équipe qui est dominante comme les Stampedeurs lors des dernières années. On arrivait à la fin de la saison puis on se disait, bon, la Coupe Grey, c'est aux Stampedeurs de la perdre parce qu'ils sont clairement la meilleure équipe de la Ligue. Donc, les Tiger Cats jouent de l'excellent football, mais je ne crois pas qu'ils sont aussi dominants que les équipes de Calgary qu'on a vues lors des dernières saisons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Alouettes nous ont prouvé qu'ils peuvent battre n'importe quelle formation de la Ligue canadienne. Alors, la question est de savoir si les Alouettes seront en santé une fois qu'ils vont arriver en éliminatoire. Mais oui, c'est possible. Écoutez, au mois de mai, là, on n'aurait jamais cru ça possible que les Alouettes auraient des chances de gagner la Coupe Grey. Mais aucun doute dans mon esprit qu'ils peuvent participer à la grande finale. Maintenant, Martin Guy Cormier me demande, est-ce que Pat Mahomes deviendra le premier carrière à 40 millions par année? Ben, il y a de fortes chances que oui. Écoutez, le Pat Mahomes, qui connaît un début de carrière tout à fait fulgurant, et puis le plafond salarial qui augmente à tous les ans. Oui, il y a de fortes chances que, parce que lorsque Pat Mahomes va signer sa prolongation de contrat, ça va être un contrat record. Et puis, il y a bien des gens qui croient qu'il va devenir le premier carrière à toucher 40 millions. Moi, je fais partie du groupe. Alexandre Tifot, toujours via Twitter. Qui me demande combien de temps donnes-tu aux Giants avec Daniel Jones au poste de quart? Et est-ce que je crois que Saquon Ingram et Shepard vont permettre aux Giants de redevenir compétitifs? Bien, aucun doute que oui, une fois qu'ils vont tous revenir au jeu, ça va augmenter le niveau de talent du côté des Giants de New York. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que je crois que la section S de la Nationale est surestimée? Je crois pas qu'il y ait personne qui surestime la section S de la Nationale, là, surtout avec les performances des Redskins, les Eagles qui déçoivent en raison de leur tertiaire qui est vraiment poreuse, puis les Cowboys, bon, on assiste au retour sur terre des Cowboys, maintenant qu'ils affrontent des bonnes formations, se sont amusés contre de faibles équipes lors des trois premières semaines d'activité. Donc, personnellement, moi, j'ai jamais surestimé la section S de la Nationale. Je crois pas qu'il y a des gens qui l'ont surestimé nécessairement. On me demande, et oui, toujours Alexandre Tifot qui me demande, qui a le plus de chances d'être carrière partant l'année prochaine? Marcus Mariota, Jameis Winston ou Josh Rosen? Mais il y en a déjà deux qui ne sont plus carrière partant. Marcus Mariota, on a appris aujourd'hui que Ryan Tannehill allait être le carrière partant des Titans du Tennessee en fin de semaine. Josh Rosen, on a également appris aujourd'hui que c'est Ryan Fitzpatrick qui sera la carrière des Dolphins de Miami, donc ça augure mal. Et Winston, lui, il a été victime de quoi? De 4-5 interceptions la semaine dernière. Alors, écoute, je crois que il n'y en a aucun qui va être avec son équipe respective l'année prochaine entre Mariota, Winston et Rosen. Il n'y en a aucun qui va être du moins le carrière partant de leur équipe avec laquelle ils jouent présentement. Sylvain Lefebvre, via Twitter, qui me demande, est-ce que je crois que Jason Garrett sera congédié par les Cowboys s'ils perdent dimanche contre Philadelphie. Ça, c'est vraiment un gros match pour les Eagles et les Cowboys, deux rivaux de la section Est de la Nationale. Bon, on a vu la déconfiture des Cowboys face aux Jets de New York la semaine dernière, mais je crois pas que Garrett va être congédié durant la saison. Je le pense pas, parce que lorsqu'on regarde le groupe d'entraîneurs, bon, il y a peut-être le coordinateur de la défense, Chris Richard, le co-coordinateur de la défense, qui pourrait devenir entraîneur-chef. Rod Marinelli, lui, bon, il a déjà été entraîneur-chef, mais des Lions, lorsque les Lions avaient fini avec une fiche d'aucune victoire et 16 défaites, ça avait été un désastre. Et Kellen Moore, le coordinateur à l'attaque, ben, il est tout jeune, alors je ne crois pas qu'il sera nommé entraîneur-chef par intérim. Donc, j'ai l'impression qu'on va terminer la saison avec Jason Garrett. Du côté de Jerry Jones, c'est ce qu'on va faire. On va terminer la saison avec Garrett à titre d'entraîneur-chef. Et puis après ça, on va évaluer le tout à la fin de la saison. Mais je crois pas qu'on va le congédier nécessairement durant la saison. Je crois pas que ce soit quelque chose que Jerry Jones ait nécessairement l'intention de faire. Mais aucun doute que les Cowboys se doivent de mieux jouer. Sinon, bon, Jason Garrett, j'en reviens toujours pas qu'il en ait déjà sa 10e saison à la barre de l'équipe, mais la question de savoir est-ce que ça sera la 10e et la dernière dans son cas. Maintenant, je me transporte du côté de Facebook. Sergi Raza, j'espère que je prononce bien ton prénom. En plus, je crois que c'est Sergi, ça se prononce. Alors, la quête des 32 équipes de la NFL m'a le plus séduit en ce début de saison et quelle équipe déçoit le plus en termes de production. Ben, la surprise, c'est les 49ers. On en a parlé tout à l'heure, selon moi. Je croyais pas que les Niners allaient être aussi bons. Surtout que l'année dernière, leur défense était horrible. Oui, on était privé de Jimmy Garoppolo au poste de quart. Mais c'est la défense, voir la défense qui joue aussi bien, pour moi, là, ça me surprend vraiment. Puis la déception, ben écoute, j'irais avec les Cowboys de Dallas, les Cowboys qui avaient de grandes aspirations avant le début de la saison. Tout le monde s'est emporté, moi inclus, après les trois premiers matchs de la saison, malgré le fait qu'on avait affronté trois des pires formations de la NFL. Et puis là, on se dit, mon Dieu, les Cowboys ont l'air d'avoir le potentiel d'être une équipe dominante. Puis là, on vient de perdre trois matchs de suite. Alors, pour moi, les Cowboys représentent une déception, parce que lorsqu'on regarde leur formation, elle est très talentueuse. Alors, il n'y a pas de raison de piquer du nez comme on le fait. Alors, de là, l'importance de la rencontre entre Dallas et Philadelphie en fin de semaine. Yves Marcotte, toujours via Facebook, qui me demande est-ce que l'entraîneur des Alouettes utilisera sa formation régulière lors des trois derniers matchs de l'équipe ou est-ce qu'il va donner congé à certains vétérans? Bon, on a justement posé la question, M. Marcotte, à Kerry Jones. Il a dit qu'il avait l'intention d'utiliser ses joueurs lors des trois derniers matchs de la saison, qu'il allait tenter de gagner chaque match. Bon, c'est ce qu'il nous a dit à la suite de l'entraînement de mardi, mais dans les faits, est-ce que ça va vraiment être le cas? Est-ce qu'on va utiliser Vernon Adams à Ottawa lors du dernier match de la saison régulière et courir le risque qu'il se blesse et que Matt Schill soit le carrière partant pour la demi-finale de l'Est? Je ne crois pas. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui vont obtenir des congés d'ici à la fin de la saison du côté des Alouettes. L'important, c'est d'arriver en éliminatoire en santé. Ça, c'est l'objectif numéro un. Selon moi, du moins, ça devrait être l'objectif numéro un. C'est bien beau de vouloir terminer la saison en force. Ça, je comprends ça. On veut arriver dans les éliminatoires avec du momentum. Mais si on est blessé en tentant de gagner un match qui ne veut rien dire, comme le dernier match de la saison à Ottawa, ben ça ne va pas valoir la peine. Nexon Remgo qui me demande est-il possible d'envoyer Pipkin dans la mêlée dans l'un des matchs restants de la saison? Ben oui, rien n'est impossible. Alors oui, c'est possible. Surtout, comme je le disais, j'ose croire qu'on va donner congé à Vernon Adams lors du dernier match de la saison régulière. Mais il faut pas oublier qu'Antonio Pipkin, c'est carrière numéro 3 maintenant. Hein. Alors, c'est Matt Schultz qui est le carrière numéro 2. Moi, je préférais qu'on donne du temps de jeu à Matt Schultz si jamais il y arrive quelque chose à Vernon Adams lors du match éliminatoire pour que Schultz obtienne du temps de jeu. Il en a eu, il a obtenu un départ à Vancouver face au Lyon il y a quelques semaines. Mais ça serait une bonne idée de donner du temps de jeu à Matt Schultz plutôt qu'Antonio Pipkin. Antonio Pipkin, moi, je crois pas qu'il sera de retour l'année prochaine. Là, il nous a démontré qu'il n'était pas de calibre à être carrière partant, même carrière réserviste, lorsqu'il s'est amené face aux Rough Riders à Saskatchewan, qu'il a obtenu un départ. Ça avait été désastreux. Puis en plus de ça, bon, son échappée au BC Place face au Lyon, ça n'avait pas vraiment aidé la cause des Alouettes. Sa deuxième question de Nexon Remgo qui me demande « Pourquoi a-t-on abandonné le jeu au sol? » du côté des Alouettes. Alors, j'imagine que vous faites référence à la dernière rencontre. Les Alouettes qui ont couru avec succès avec le ballon, si je me souviens bien, Jamar Johnson avait une moyenne de 5 verges par course, un peu plus de 5 verges par course, face aux Blue Bombers de Winnipeg. L'allure de la rencontre a fait en sorte qu'on a délaissé le jeu au sol du côté des Alouettes. Le fait que en deuxième demi, les Bombers se sont forgés une avance. Alors, mais c'est quelque chose qui va être à surveiller, ça. Est-ce qu'on va demeurer, est-ce qu'on va avoir de l'équilibre du côté des choix de jeu de Carey Jones? Parce que lors des derniers matchs, oui, il y a un penchant pour le jeu aérien. Mais selon moi, le meilleur joueur en attaque des Alouettes, du moins un des meilleurs, c'est William Stambach. Et ça facilite les choses lorsqu'on peut courir avec succès avec le ballon. Ça permet à la défense d'être reposée. La défense des Alouettes qui a très mal joué contre les Blue Bombers de Winnipeg. Les Alouettes ont combien de pourcentage de chances de se rendre à la Coupe Grey? Ben écoutez, ça vient rejoindre un peu la question là, qui m'a été demandée tout à l'heure. Maintenant, de mettre un pourcentage là-dessus, ben je dirais quoi? 25% de chances de participer à la Coupe Grey? On va y aller avec ça, 25%, pourquoi pas? Carl Savard qui me demande... En raison de leur début de saison laborieux, est-ce que je suis prêt à lancer la serviette du côté des deux carrières qui ont été sélectionnées avec le premier et le deuxième choix de la première ronde en 2015? Parle bien sûr de Jameis Winston et Marcus Mariota. Oui, je suis prêt à lancer la serviette, surtout dans le cas de Mariota. Bon, je viens de le dire tout à l'heure, aujourd'hui on a appris que Ryan Tannehill allait être le carrière partant des Titans. Mariota, écoutez, c'est laborieux parce que là, il y a même des jeux de routine qu'il n'est pas en mesure de compléter. Les receveurs sont libres devant lui. C'est pas nécessairement des passes difficiles. Justement, en fin de semaine, il y avait une passe vers son ailier rapproché de Lenny Walker. Puis il a envoyé ça, la passe, directement dans les chevilles de Lenny Walker. Je me souviens d'un match plutôt cette saison face aux Jaguars de Jacksonville. Les receveurs des Titans se démarquaient, mais les passes manquaient nettement de précision. 10 pieds par-dessus la tête de ces receveurs de passe. Puis c'est comme ça depuis le début de sa carrière. On voit pas d'amélioration. Je sais que Marcus Mariota a eu plusieurs coordinateurs à l'attaque depuis qu'il est un membre des Titans du Tennessee. Mais quand même, écoutez, il n'y a pas eu d'amélioration dans son cas. Alors oui, moi je lance complètement la serviette dans le cas de Marcus Mariota. Pour ce qui est de Jameis Winston, il représente une énigme. Il prend tellement de mauvaises décisions, okay, comme on l'a vu en fin de semaine. Mais en même temps, lors du même match, il a complété vraiment de belles passes. Alors, mais Jameis Winston, il était comme ça lorsqu'il jouait à Florida State. Il est comme ça depuis le début de sa carrière. Il a été victime de pas moins de 86 revirements. Depuis qu'il est carrière des Buccaneers de Tampa Bay, ça c'est un sommet dans la NFL depuis 2015. Tu peux pas gagner comme ça. La priorité d'un carrière, c'est bien sûr de protéger le ballon d'abord et avant tout. Tu peux pas continuellement faire cadeau du ballon à l'adversaire. Alors ouais, je suis obligé de lancer la serviette dans le cas de Jameis Winston, même si il nous démontre qu'il est talentueux, mais trop de crampes au cerveau, trop de mauvaises décisions de sa part. Jonathan Roy demande, est-ce que je crois que l'après Big Ben est vraiment commencé à Pittsburgh ou s'il va revenir pour une autre saison? Est-ce que je crois que Mason Rudolph est vraiment l'homme de la situation? Ben, Roethlisberger, il a déjà dit qu'il avait bel et bien l'intention de poursuivre sa carrière, lui dont la saison est terminée en raison d'une blessure au coude droit. Donc, il veut revenir au jeu l'année prochaine. Il est sous contrat. Moi, je m'attends à ce que Ben Roethlisberger soit le carrière partant des Steelers de Pittsburgh. Mais on se doit de préparer l'avenir, là, la position de carrière. Je suis pas convaincu que Mason Rudolph est vraiment l'homme de la situation. Bon, l'échantillon est petit. Malheureusement, il a subi une commotion cérébrale il y a 2 semaines. Mais Mason Rudolph, ça reste à voir. On aimerait pouvoir l'évaluer du côté des Steelers. Malheureusement, sa commotion fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de le faire. Mais moi, ce que je mets en doute du côté de Pittsburgh, c'est la transaction qu'on a faite afin d'acquérir Minka Fitzpatrick. On a donné un choix de première ronde aux Dolphins de Miami pour aller chercher le demi-défensif. Mais ce choix de première ronde-là, il risque possiblement d'être un choix du top 10 avec lequel on pourrait potentiellement repêcher un carrière qui pourrait succéder à Ben Roethlisberger si Mason Rudolph nous prouve qu'il n'est pas de calibre à être carrière partant. Alors moi, ça va être quelque chose à surveiller. Est-ce que cette décision-là d'avoir changé notre choix de première ronde va revenir hanter les Steelers? Richard Saint-Denis qui me demande « Est-ce que je crois que Freddie Kitchens, entraîneur-chef des Browns de Cleveland, va garder son poste d'entraîneur-chef jusqu'à la fin de la saison? Malgré une défensive avec pas beaucoup d'intensité et de très mauvais choix de jeu du côté de l'attaque. » Moi, je crois qu'il va garder son poste pour la saison, mais on va voir. Là, est-ce que si les Browns continuent de piquer du nez comme ça, mais en même temps, c'était tellement prévisible. J'en avais parlé durant le podcast avant le début de la saison, que c'était une lourde tâche là, pour Freddie Kitchens, qui n'avait jamais été entraîneur-chef à aucun niveau, d'être entraîneur-chef des Browns de Cleveland avec toutes les attentes qu'il y avait du côté des Browns, mais également les égos à gérer, celui d'Odell Beckham, l'ego de Baker Mayfield, et d'essayer d'être l'entraîneur-chef de l'équipe, de gérer tout ça et de sélectionner les jeux en plus. C'est vraiment pas facile. Alors, ça explique ces mauvais choix de jeu du côté de Freddie Kitchens. Parce que lorsque tu es l'entraîneur-chef, là, c'est différent là, que lorsque tu es le collateur à l'attaque ou en défense. Tu as juste à te concentrer sur une moitié de l'équipe. Tu as juste à te concentrer sur ta sélection de jeu lorsque tu es coordinateur à l'attaque. Lorsque tu es entraîneur-chef, bien, tu dois gérer le match. S'il arrive quelque chose en défense, tu es en communication avec le coordinateur de la défense, tu dois te prendre une décision. Donc, tu peux pas être concentré nécessairement sur ton choix de jeu. Il y a des entraîneurs qui sont capables de le faire. Kyle Shanahan, avec les 49ers de San Francisco, est en mesure de le faire. C'est lui qui sélectionne les jeux du côté de l'attaque des Niners. Il est également l'entraîneur-chef. Mais c'est vraiment pas quelque chose de facile. Alors, Freddie Kitchens, qui semble tout simplement, là, il en a par-dessus la tête. Alors, si j'avais à parier, ouais, je parierais en faveur qu'il ne va pas garder son poste d'entraîneur-chef pour toute la saison. Alors, Marco Varin qui me demande... Est-ce que je crois que c'est la fin de Jason Garrett avec les Cowboys? Est-ce que je crois que les Cowboys ont des éléments pour rivaliser pour un Super Bowl? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, les Cowboys qui ont une formation talentueuse. Alors oui, les Cowboys devraient être des aspirants au Super Bowl. Et pour ce qui est de Jason Garrett, comme je l'ai dit, bon, s'il se fait congédier, je crois pas que ça va arriver durant la saison. Je crois pas que Jerry Jones va faire ça durant la saison, qu'il a le goût là, de congédier Garrett durant la saison. Mais le match, encore une fois, le match contre les Eagles, c'est un match qui va vraiment, mais vraiment être important. Parce que Jason Garrett, mon Dieu, il est incapable de s'ajuster. On l'a vu, hein, du côté des Cowboys, il y a des blessés au niveau de la ligne à l'attaque, puis on n'apporte pas d'ajustement afin de donner au coup de main aux bloqueurs réservistes en termes de protection. Puis ça fait 10 ans, c'est comme ça, Jason Garrett. Lors des matchs, c'est pas un bon entraîneur afin de s'ajuster lors des rencontres. Alors, les attentes étaient hautes du côté de Dallas. Je crois pas qu'une autre année sans Super Bowl, et surtout si on ne participe même pas aux éliminatoires, je crois pas que Jason Garrett va être en mesure de survivre à ça. PL Bouchard qui me demande « Que penses-tu que les Panthers à Caroline feront avec le dossier Cam Newton? » Carl Allen connaît de bons moments avec les Panthers. Lui qui a une fiche de 9 passes de toucher contre aucune interception. Encore plus important, Carl Allen a une fiche parfaite en tant que carrière partant depuis qu'il a remplacé Cam Newton. Alors, on a dit que Cam allait reprendre l'entraînement la semaine prochaine, qu'on allait l'évaluer. Et à ce moment-là, bon, on avait décidé s'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu. Mais c'est vraiment une grosse décision du côté de l'entraîneur-chef Ron Rivera. Parce que s'il décide de réinsérer Cam Newton au sein de la formation partante et que ça va pas bien pour Newton... Ben là, ça va signaler la fin, là, le début de la fin de Cam Newton en Caroline. Faut pas oublier que Newton a été, quoi, il y a 4 ans, 5 ans, joueur par excellence de la NFL. Mais est-ce que c'est un Cam Newton qui va être à 100% lorsqu'il va revenir au jeu? Parce que, oui, Kyle Allen, présentement, joue mieux que Cam Newton. Que le Cam Newton qu'on a vu lors des deux premiers matchs, mais Cam Newton était blessé, il n'était pas à 100%. Mais il n'y a aucun doute qu'un Cam Newton à 100% est supérieur que Carl Allen. Ça, je crois que tout le monde, on s'entend là-dessus. Ma question, est-ce qu'on va revoir Cam Newton à 100%? Il a été ralenti par des blessures. Blessure au pied, blessure à une épaule il y a quelques années. Il a subi une intervention chirurgicale. Donc, est-ce qu'on va revoir le Cam Newton à 100%, le Cam Newton qui a été élu joueur par excellence de la NFL? Ça, j'en ai aucune idée. Puis je crois pas que personne a la réponse à cette question parce que si on avait réponse à cette question, ben on se demanderait même pas est-ce que Cam Newton va retrouver son poste lorsqu'il sera en santé, parce que bon, même si Carl Allen joue très bien, Cam Newton était une des forces de la NFL. Naturellement, une double menace avec son bras, avec ses jambes. Mais ce Cam Newton-là, ça fait, je dirais, 2 ans là, qu'on l'a pas vu. Même l'année dernière, Newton n'était pas aussi dominant. Alors, si j'étais Ron Rivera, oh mon Dieu, j'aimerais pas être Ron Rivera. C'est sûrement une décision très difficile à prendre. T'as ton carrière qui t'a déjà amené à une participation au Super Bowl. T'as Carl Allen qui a une fiche parfaite. J'aurais tendance à dire de continuer d'y aller avec Allen, étant donné que l'équipe joue mieux, joue mieux depuis qu'il est au poste de quart, mais tout va dépendre de la santé de Cam Newton. Si on me dit que Cam Newton est à 100%, je le réinsère au sein de la formation partant. Mais si on me dit que c'est pas le cas, ben là, je continue d'y aller avec Carl Allen. C'est tout simple, aussi simple que ça. Francis Desjardins, maintenant. Il se passe quoi avec les Falcons? Encore une défaite dimanche. À quel changement on doit s'attendre? Bon, écoutez, on parlait de la sécurité d'emploi de Jason Garrett. Celle de Dan Quinn, elle est pire. Okay? Les Falcons ont seulement une victoire. Seulement une victoire. Mais je ne veux pas passer tout le blâme sur Dan Quinn. Oui, l'unité défensive joue très mal et en plus d'être l'entraîneur-chef, ben Dan Quinn est celui qui sélectionne les jeux du côté de la défense. Mais on a mal repêché également. Parce que la défense des Falcons, elle est basée sur la vitesse. On a 2 ailiers défensifs qui sont des anciens choix de première ronde. Je parle de Tack McKinley d'un côté et de l'autre côté, Vic Beasley. Vic Beasley, l'année que les Falcons sont allés au Super Bowl, il avait mené la NFL au chapitre des sacs du quart. Mais depuis, il fait pas grand-chose. Tack McKinley, tant qu'à moi, a été un flop. Il n'est pas un joueur d'impact. C'est un joueur qui joue avec beaucoup d'intensité, mais il ne produit pas. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de sac. Il se rend pas au quart, n'applique pas une pression constante sur les carrières adverses. Les Falcons, en 6 matchs cette saison, ils ont seulement 5 sacks. Seulement 5 sacks. Semaine après semaine, on accorde plus de 30 points. Alors, donc c'est ça qui tue les Falcons, parce que l'attaque produit. Matt Ryan, lorsqu'on regarde ses statistiques, là, de bonnes statistiques, généralement, il se met en marche en deuxième demi lorsque l'équipe tire déjà de l'arrière par plus de 10 points. Mais c'est pas nécessairement à l'attaque le problème majeur du côté des Falcons. C'est vraiment l'unité défensive. Si on était en mesure de courir avec le ballon, ça donnerait une chance à la défense de se reposer également, mais on n'est pas capable de courir avec le ballon. Donc, tout repose sur les épaules de Matt Ryan du côté de l'attaque. Mais c'est vraiment la défense et les mauvais choix au repêchage qu'on a fait du côté des Falcons et du directeur général Thomas Dimitroff, selon moi, qui explique pourquoi les Falcons en arrachent autant cette année. J'ai l'impression que Dan Quinn va payer la note une fois que la saison sera terminée. Francis Gingras, maintenant. Que crois-tu que Kerry Jones va faire avec l'utilisation de Vernon Adams d'ici la fin du calendrier? Fera-t-il jouer tous les matchs? Ben, j'ai déjà répondu à cette question. Je crois que Adams va jouer les 2 prochains matchs et selon moi, il devra obtenir congé contre Ottawa. Du moins, si j'étais l'entraîneur-chef des Alouettes, c'est ce que je ferais lors du dernier match de la saison régulière à Ottawa. Je donnerais une journée de repos à Vernon Adams, afin de ne pas courir le risque qu'il subisse une blessure, parce qu'on l'a vu, l'attaque des Alouettes est complètement différente sans Vernon Adams. Alors, moi, c'est ce que je ferais. Comme je le disais tout à l'heure, Kerry Jones a dit qu'il avait l'intention de gagner tous les matchs d'ici à la fin de la saison régulière. C'est ce qu'il a dit, mais moi, je vais parier $5 que Vernon Adams ne jouera pas lors du dernier match de la saison régulière. Et ensuite de ça... Malheureusement, je ne suis pas en mesure de lire le nom de la personne qui m'a envoyé cette question, puisque les lettres sont dans une autre langue. Mais la question est la suivante. Est-ce que les Rams feront partie des éliminatoires de la NFL? Les Rams qui ont complété une grosse transaction hier, ils ont acquis Jalen Ramsey, le demi-coin étoile des Jaguars de Jacksonville, en retour de 2 choix de première ronde au repêchage notamment. Moi, je crois que non. La transaction de Jalen Ramsey, ça ne sera pas suffisant afin de permettre aux Rams de participer aux éliminatoires, parce que on a plusieurs problèmes là du côté des Rams. Ok, c'était pas juste la position de demi-coin qu'on avait des ennuis, mais si on se concentre juste du côté de l'attaque, Jared Goff qui a amassé moins de 100 verges par la passe la semaine dernière, il avait seulement 27 verges de gain en première demi. Écoutez, les défenses, là, c'est simple. Depuis le match du Super Bowl, les défenses ont utilisé le même plan de match que les Patriots ont utilisé face à l'attaque des Rams. Et l'attaque des Rams, elle n'est pas aussi bonne que l'année dernière. Jared Goff n'est pas aussi bon. La ligne à l'attaque n'est vraiment pas Jared Goff. On a une ligne à l'attaque qui est vieillissante, notamment avec le bloqueur à gauche, Andrew Whitworth. Elle accorde beaucoup de pression et Goff n'est pas un joueur qui réagit bien sous pression. Todd Gurley n'est plus le même. Il est blessé. Il est ennuyé par une blessure à un genou. Mais là, il a raté la dernière rencontre en raison du blessure au quadriceps. Même lorsqu'il est de la formation, on ne revoit pas le Todd Gurley dominant qu'on voyait l'année dernière lors de la première moitié du calendrier. Alors, Gurley n'est plus le même joueur. Donc, ça fait beaucoup de problèmes, ça, du côté des Rams, plus les ennuis qu'on a du côté de la défense. Donc, non, moi, je crois pas qu'on sera en mesure de participer aux éliminatoires. On a accordé une prolongation de contrat de 110 millions à Jared Goff. Puis, Jared Goff, pour moi, n'est pas une carrière de concession. Il a connu des succès l'année dernière, mais c'est en raison de Sean McVay, les succès qu'il a eu lors des deux dernières saisons. Mais il n'est pas en carrière de concession, mais McVay fait tout pour l'aider. Et c'est la raison pour laquelle il a connu du succès lors des deux dernières années. Mais si tu es obligé de prendre soin de ton carrière autant, d'arriver avec des plans de match simplifiés pour lui, ben ça m'indique que ce joueur-là n'est pas en carrière de concession. Alors non, les Rams, selon moi, ne participeront pas aux éliminatoires. Alors, ben écoutez, ça fait le tour des questions sur Facebook. J'ai répondu à vos questions sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Je vais m'assurer que je n'ai pas oublié quelqu'un. Alors, il y en a quelques-unes sur Instagram. OK, on va continuer. Il en reste 4 ou 5, là. Alors, en fait, il en reste une à laquelle j'ai pas répondu. Et, naturellement, elle porte sur les Cowboys de Dallas. Les Cowboys. Le vrai visage des Cowboys ou une mauvaise semaine? Alors, ça, c'est Joshua. Je sais bien dire le nom. Joshua Nadeau. Qui me pose cette question. Ben écoute, oui, ça a été une mauvaise semaine face aux Jets de New York. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut dire que du côté des Jets, on était motivés. Sam Darnold effectuait un retour au jeu. Puis on voit, les Jets sont complètement différents avec Darnold aux commandes de l'attaque. Mais tout de même, les Cowboys auraient dû gagner ce match-là. Écoutez, oui, je crois que c'est possiblement le vrai visage des Cowboys de Dallas. Parce que là, c'est la semaine précédente, contre les Packers, on s'est fait pilé sur le corps par la ligne d'attaque de Green Bay, Aaron Jones, qui s'est amusé aux dépens de nos deux secondaires étoiles, de Jalen Smith et de Leighton Van Der Esch, à plusieurs reprises lors de cette rencontre. Encore une fois, pour Van Der Esch, ça a été un autre match difficile face aux Jets de New York. Alors, oui, moi, j'ai l'impression que du côté des Cowboys, qu'est-ce qu'on a vu là face aux Jets? J'ai l'impression qu'on va revoir ça. Parce que également Dak Prescott n'est pas un carrière de concession. Je sais là qu'il tente d'obtenir un nouveau contrat, mais c'est pas un joueur qui peut transporter l'attaque de Dallas. S'il a besoin que Ezekiel Elliott soit productif au sol. Et en plus de ça, là, on a perdu les services de Murray Cooper. Il n'a pas terminé le match face aux Jets. Alors, on va voir s'il sera de retour au jeu cette semaine. Alors, pour les Cowboys de Dallas, j'ai pas l'impression que ça va se replacer cette année. Nos 3 victoires, on les a eues face à 3 des pires formations de la NFL. On a profité de notre calendrier facile. Alors, c'est un gros match, encore une fois, c'est possiblement le match de la semaine là, dans la NFL, l'affrontement entre les Eagles et les Cowboys cette semaine. Alors, ce sera bien sûr à ne pas manquer. Alors, ben écoutez, on a fait le tour, je fais le tour de vos questions. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci à Benjamin Saint-Just de s'être joint à moi pour cette édition du podcast Le Sac du Cœur. Alors, la semaine prochaine, on va revenir à l'horaire habituel de la mise en ligne du podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.